Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Le Christ est né, faisons silence. Le Christ venu du ciel, le Fils nous est donné. Le Christ né de Marie, il est homme avec nous. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour appeler sur nous le nom de notre Seigneur. Alors, je profite pour signaler aux gens qui seraient de passage ou qui seraient nouveaux qu'au tout début du cantique, vous avez un petit livret avec ce qu'on appelle un peu abusivement des spontanés. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux humains qu'il aime. Ô Dieu, notre Père, viens dissiper nos ténèbres, fais briller parmi nous et en nous l'amour et le pardon de celui qui est la lumière du monde. Donne-nous des oreilles pour entendre ce Fils en qui s'incarne ta parole. Ouvre nos intelligences, purifie nos cœurs, sanctifie nos affections, fortifie nos volontés, pour que nous soyons dignes d'accueillir celui qui est à présence parmi nous et capable de le servir selon le même amour dont il nous a aimés. Amen. Nous voici rassemblés en ton nom. Si rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia, alléluia, crions notre joyeux assemblés en ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus Sauveur. Nous poursuivons notre louange avec le psaume 89, quelques extraits du psaume 89. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Amen. Sortez, bergers, de vos retraites. Cantique 32-24. J'ai pas tout page. Sortez, bergers, par les prophètes, le si tendre, le Prenez place. Je suis le pain de vie qui descend du ciel, dit Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Je la donne pour que le monde vive. Quel pain mangeons-nous chaque jour ? Celui du boulanger ? Et le Christ, pain descendu du ciel qui nourrit notre vie pour l'éternité, ce pain-là, en mangeons-nous jour après jour, repas après repas. Seigneur, nous nous repentons de négliger ce pain de vie, d'y goûter souvent du bout des lèvres, de préférer des nourritures plus faciles, des mets à la saveur du jour, à nos convenances personnelles. Seigneur, pardonne notre négligence, notre sous-alimentation spirituelle. Seigneur, pardonne. Jésus le Christ, lumière intérieure. Écoutons la bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse pas. Ainsi, il est permis de dire à tous ceux qui accueillent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde, il nous accorde le pardon de nos péchés, il nous conduit à la vie éternelle. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Tu consoles, tu pardonnes. Nous pouvons nous lever. Nous lisons dans le prophète Ésaïe. Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans asile, couvre celui qui a froid et ne te détourne pas de ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Le salut te précédera, et le Seigneur en personne sera ton arrière-garde. La lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Amen. Transmets la nouvelle. Prenez place. Pour aujourd'hui, je vous propose deux lectures. La première dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, et la seconde dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2. Avant de lire la Bible, nous prions. Père, par une étoile, tu as appelé les mages à chercher ton fils bien-aimé, et par la parole du prophète, ils l'ont trouvé et adoré comme leur Seigneur. À nous aussi, fais connaître ta parole, afin qu'elle nous conduise au Christ, comme l'étoile a conduit les mages. Donne à celles et ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle de la découvrir à leur tour, et d'accueillir avec joie celui que tu envoies, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Éphésiens.
Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. C'est Paul qui parle. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres, ses prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ.
Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi je puisse lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffre. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin.
écoute, entend la voix de Dieu. Cantique. Prenez place. Voilà le célèbre épisode des mages. La juxtaposition des deux extraits bibliques lus ce jour nous invite implicitement à suivre la piste de l'annonce de l'évangile aux païens. Tout cela, bien sûr, c'est dans le texte, dans les passages que nous venons d'entendre. Mais cela, il faut bien le dire, n'a rien de bien original. Et je vais avoir l'air de me répéter, à mes propres oreilles du moins, mais ce n'est pas très grave dans la mesure où vous ne m'avez a priori jamais entendu prêcher sur Noël. Je crains toutefois de ne pas pouvoir échapper à maintes lieux communs et autres poncifs sur le récit de la nativité. Vous le savez, notamment parce que chaque pasteur se sent obligé de préciser à chaque fois que les mages n'étaient pas forcément trois, mais qui pouvait bien être 2, 5, 12 ou 224. Mais comme ça ne change rien, et que la tradition a fixé le nombre à 3, pourquoi ne pas accepter cette idée? Après tout, même si les protestants aiment ruer contre toutes les traditions qu'ils jugent catholiques, reconnaissons toutefois qu'il vaut mieux garder son énergie pour les combats qui en valent la peine. Comme on ne connaît pas leur nombre, il n'y a pas moyen qu'on connaisse leur nom. Mais là encore, avouons-le, on s'en fiche un peu. Alors pourquoi pas Gaspard, Malchior et Balthazar? Je vous le demande. Troisième révolte annuelle protestante, ce sont des mages et non pas des rois mages. L'idée de leur royauté apparaît toutefois assez tôt, au IIIe siècle, semble-t-il, sans doute pour relever le prestige de ces mages et par ricochet, celui de l'enfant Jésus. Mais là, j'aimerais pouvoir vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est une erreur, et voire une faute. Dans l'épisode narré par l'évangéliste Matthieu, nous avons trois intervenants. Si on exclut toutefois Jésus et ses parents, qui, il faut bien dire, dans l'histoire ici, sont assez passifs. Il y a les mages, Hérode et un collectif qui est désigné sous le nom de grands prêtres et scribes du peuple. Pas besoin d'avoir fait des hautes études pour s'apercevoir qu'il y a une typologie évidente de ces trois entités. Hérode représente le pouvoir politique, le collectif le pouvoir religieux, tandis que les mages le pouvoir de la connaissance, du savoir. C'est pourquoi il me semble que leur ajouter le titre de roi et donc un pouvoir politique brouille les cartes et rend le jeu confus. D'autant plus que les religieux vont, d'eux-mêmes ou sous la pression du pouvoir politique, assumer un rôle qui n'est pas le leur, celui de consultant. Nous y reviendrons. Mais alors vous me direz, quelles connaissances, quels savoirs ne sont-ce pas des astrologues, des gens qui prétendent obtenir des informations sur le présent et l'avenir en regardant la position des étoiles? Certes, mais à l'époque, l'astrologie comprenait certes cette dimension des thèmes astro, mais aussi celle plus sérieuse, plus rigoureuse de la cartographie céleste. En ces temps pré-scientifiques, la séparation entre astrologie et astronomie n'avait pas été clairement établie. Et la plupart des astronomes faisaient de l'astrologie, qu'ils y crussent ou non, simplement parce qu'il fallait bien manger. L'évangéliste Matthieu, celui des quatre qui connaît mieux le monde juif de son époque, ne pouvait ignorer la condamnation des pratiques divinatoires que contiennent les Écritures. Par exemple, juste comme ça en passant, les versets 12 à 14 du chapitre 47 d'Ésaïe. Ésaïe interpelle la ville de Babylone. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multiplication de tes sortilèges pour lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être parviendras-tu à inspirer de la terreur. Tu t'es fatigué à force de demander conseil. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ce qui quadrille le ciel, qui observe les étoiles, qui annonce, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Ils seront comme de la paille, un feu les brûlera. Ils n'échapperont pas aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Vous voyez, c'est assez violent. Mais Matthieu n'essaye pas ici de redorer le blason des astrologues, ni de les réhabiliter. Mais il connaît la nécessité de la connaissance astronomique. C'est grâce à elle que l'on connaît les dates du calendrier religieux, que les marins et les voyageurs peuvent trouver leur chemin et arriver à bon port. Soyons clairs, non seulement ces mages sont des païens, mais ils exercent une profession ambiguë. Ils sont donc doublement louches. De plus, ils ne connaissent rien aux Écritures. Ce sont des païens. Et puis, c'est là que se joue la différence fondamentale entre les diverses attitudes. Comment chaque groupe ou individu vit-il son rapport à la parole divine ? Hérode, d'abord. Pour lui, les Écritures sont quelque chose de lointain. Il sait qu'elles existent, il en a entendu parler, mais il laisse ça à ceux dont c'est le métier. Après tout, la religion est un outil du pouvoir. Et comme l'a dit à peu près, je cite de mémoire, un élu radical de chez moi, à la fin du XIXe siècle, « L'Église est là pour canaliser des élans religieux du peuple et éviter que cela déborde. » Alors, il n'est pas hostile par principe à la parole, mais il la conçoit comme étant à son service, plutôt que l'inverse. Les groupes des grands prêtres et des scribes du peuple, lui, a dans ce passage, j'insiste, dans ce passage, une vision quelque peu utilitariste de l'Écriture. Elles servent à répondre à des questions, un peu à la mode d'une partie de Trivial Poursuite ou d'un jeu télévisé. Il est d'usage de reprocher aux religieux du récit de ne pas s'être mis en route, à l'instar des mages. Et si on parle de ce récit à ce moment-là, c'est un reproche injuste. Les religieux, les mages, ne se sont même jamais croisés dans le récit, mais ils ne savent même pas que l'un et l'autre, ils ne connaissent pas leur existence réciproque. Les religieux, on leur pose une question, ils y répondent. Ils sont compétents, ils servent d'experts, en l'occurrence. Mais si le reproche de ne pas s'être mis en route est plus général, c'est, pour mon avis, recevable. Effectivement, par la suite, ils ne se mettront pas en route. Ils sont devenus, à force de travail, et pourquoi pas de passion, les grands spécialistes des Écritures, au point de pouvoir répondre à une question pointue. Ce n'est pas moi qui leur reprocherais cette spécialisation. Mais qu'en font-ils ? L'Écriture n'est plus le phare qui éclaire la route, mais le but de leur existence est leur raison d'être. Malgré tout l'amour que je porte à la Bible, je ne puis concevoir qu'elle soit un but en elle-même. Elle est un chemin, un appel vers Dieu et vers les autres. La connaissance livresque de la Bible est nécessaire et utile, mais elle n'est pas suffisante. Prendre la Bible et son étude comme un but de notre vie serait semblable à maîtriser parfaitement une langue qu'on n'utiliserait jamais, ni pour parler, ni pour écrire, ni pour lire. Inutile. Beau et inutile, c'est tellement plus beau lorsque c'est inutile. Oui, certes, mais cela reste inutile. Je répète néanmoins, pour éviter tout malentendu, étudier la Bible est nécessaire et utile. Je ne voudrais pas que vous utilisiez mes propos comme oreiller de paresse spirituelle. Venons-en aux faits, aux héros de cette histoire, les mages. Non seulement ils ne se sont pas contentés d'accumuler des savoirs, ils les ont mis en pratique. Ils sont partis, ils ont demandé leur chemin en route et ils ont ouvert leur champ de compétences. Car soyons clairs, de tous les protagonistes de cette histoire, c'étaient les seuls à n'avoir aucune raison de faire confiance à l'Écriture. Ce n'était pas leur texte sacré, mais ils ont fait confiance à la parole qui leur a été donnée. D'autant plus que cela a été confirmé par leur propre expérience. Puisque Matthieu nous dit que l'étoile, leur domaine de compétence, l'étoile se mit à les précéder. Grâce à la confrontation de leur expérience et de l'écriture, ils ont changé, tout au moins de chemin. Car comme pour la plupart des gens dont la Bible nous narre les rencontres avec Jésus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Une fois de plus, leur devenir inconnu nous interroge sur notre propre avenir. Et c'est assez paradoxal que ce soit des astrologues qui nous interrogent sur notre avenir. Avant de conclure, poussons le bouchon un peu plus loin. Est-ce que finalement, la consultation des religieux par Hérode ne s'apparenterait pas à celle d'un expert, voire d'un voyant ? Que va dire l'avenir par les moyens... Qui va dire l'avenir par des moyens quasi magiques ? Il y a une utilisation de l'écriture qui ne vaut pas mieux qu'un horoscope. Tout cela pour arriver à la question du jour. Quel est notre rapport à l'écriture ? Est-ce un truc de spécialiste que je ne vais consulter que j'en ai besoin ? Est-ce un moyen de calmer mes élans religieux intempestifs ? Est-ce une matière à étudier comme l'élève studieux et un peu faillot qui apprend sa leçon sur le bout des doigts pour faire plaisir à l'enseignant, afin de pouvoir lever la main en toute question en disant « moi ». Ou est-ce un texte toujours nouveau, que je crois reconnaître, mais qui m'échappe toujours, et qui m'oblige à trouver un autre chemin, qui m'appelle à ne pas rester assis, mais à vivre avec Dieu et avec les autres ? Oh, bien sûr, comme vous, je connais la bonne réponse. Mais quelle est la réponse honnête. Et si les deux ne sont pas identiques, prenons donc exemple sur les mages pour qu'elles le deviennent. Dieu nous sera en aide. Amen.
Thank you.
Cantique 32-30, Voici Noël, page 384.
Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Quel beau jour, Jésus aimé, quel grand amour, bienheureux et bienheureux la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né.
Nous restons debout pour la confession de la foi. Nous croyons en Dieu le Père, qui a voulu le monde et l'a créé, et qui a créé chaque être humain à son image. De lui, nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Il s'est donné à connaître de plusieurs manières et à diverses reprises dans l'histoire. Nous croyons que Jésus-Christ, bien qu'ayant vécu en Palestine, n'appartient pas au passé de l'histoire, mais à son avenir. Nous croyons qu'il est le Seigneur, qu'il est devant nous et pas seulement derrière. De même, il n'est pas seulement l'alpha de nos activités diverses, mais aussi l'oméga. Il est venu pour libérer chaque être des puissances qui l'asservissent et pour rendre l'humain à l'image de Dieu. Nous croyons qu'il récapitulera toutes choses et attirera tout être humain, tout homme, toute femme à lui. Mais nous ne disposons d'aucun signe qui rappelle le pouvoir de ce Christ-Roi, sinon aujourd'hui l'annonce de sa naissance. Nous croyons au Saint-Esprit qui actualise cette réalité en nous et nous pousse à agir au milieu de notre monde, dans la proximité du quotidien. Il tisse en nous la vie de Dieu et nous libère pour que nous soyons les hôtes de la joie. Amen. Chaque jour de ma vie,
amen.
Prenez place. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes et merci aussi pour la joie d'offrir. C'est maintenant le temps du don et de l'offrande.
Les annonces seront très brèves, puisque cette semaine, seul le groupe de prière se réunit mercredi à 18h, jusqu'à 19h. La prochaine autre activité sera le culte de dimanche prochain.
Merci à
Mathieu qui assure la musique. Merci à tous ceux qui sont chargés de l'accueil, Laurette et Pierre. Nous allons partager le pain et le jus de raisin auquel je ferai allusion en tant que vin, mais pas de jus de raisin. Chacune est la bienvenue s'il reconnaît Jésus comme sauveur, qu'il soit un participant régulier ou occasionnel, s'il se sent indigne ou non, il est et elle est invitée à partager le repas du Seigneur. Sur un plan pratique, je propose qu'on fera une sorte de cercle. Et quand on vous apportera le pain ou le vin, consommez-le immédiatement et reposez votre verre, notamment voilà, on fasse un seul passage. On n'attend pas que tout le monde soit servi pour ça. C'est ça le sens de la phrase, oui. Il faut être ambigu, voilà. Il y a plusieurs façons de faire qui se valent, mais celle-là, c'est la nôtre. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Dans la charité, l'amour du Christ, donnons-nous un signe de paix. Seigneur, aujourd'hui c'est la fête sur la terre. Selon ta promesse, ton Fils est né dans notre humanité. Béni soit ton nom, Dieu du ciel et de la terre, Béni sois-tu aujourd'hui pour cet enfant né de Marie qui porte le nom de la promesse, Emmanuel, Dieu avec nous. Bienheureuse nuit où surgit une pareille lumière, merveilleux éclat de ta bonté qui chasse les ombres de nos fautes. Renouvelés par ton esprit, nous joignons nos voix à celles des anges et des témoins de tous les temps pour remplir de nos chants les cieux et la terre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et nous chantons le cantique de spontané. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, après le souper, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples et leur dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous. » Dans le royaume de Dieu. Faites cela en mémoire de moi. Père, ton Fils est venu habiter parmi nous. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité. Il nous appelle à le suivre. Dieu notre Père, ton esprit, donne-nous d'être en communion avec ton Fils et les uns avec les autres. Accorde-nous d'être témoins d'espérance sur toute la terre. Heureux les invités au repas du Seigneur, venez, car tout est prêt.
Je vous invite à vous approcher. On va faire un cercle, un peu raccourci par rapport à l'habitude.
Membres d'une même famille, enfants d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Voici le pain. Il est le fruit de la terre et le travail des humains. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe de la venue de la présence et la présence de notre Seigneur Jésus, qui dit « Je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. Le vin est le fruit du travail de la terre, du travail des humains. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe de la venue de la présence du Seigneur Jésus, qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien. » Seigneur, nous voici devant toi avec notre faiblesse, et tu as dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. » Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je suis dans la joie, Seigneur, dans la joie, dans la joie. Tous les jours, par ta grâce, c'est Noël et Pâques, c'est Pentecôte et l'Ascension. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour. Alléluia, mon Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Merci, Père très bon, pour le petit enfant de Noël, porteur de ton immense amour. Merci pour les anges que tu nous envoies et qui nous disent de ta part le sens de notre vie. Merci pour les bergers qui ont su écouter, comprendre et témoigner. Apprends-nous comment ils ont su le faire, comme ils ont su le faire, à écouter, comprendre, témoigner. Nous te savons, petit et frêle, parmi nous, donne-nous d'accepter paisiblement nos propres fragilités. Nous te savons, notre frère, ami des petits et des déshérités. Oblige-nous à sortir de nos conforts égoïstes, donne-nous d'aimer nos sœurs et nos frères, comme nous t'aimons. Et nous te confions tous ceux qui sont dans la souffrance, la maladie, le conflit, tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, leur croyance. Et nous te remettons aussi ceux qui sont dans la solitude. Seigneur, donne-nous d'être présents à leur côté. Ils puissent compter sur notre soutien. Amen. Alors, je vois que vous n'avez pas pris vos cantiques avec vous. On chantera le cantique final. Alors, la parole est un peu difficile, je vais vous les redonner. Hein. Vous les connaissez sans doute d'ailleurs. Hein. Là. Voilà, simplement. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans la vie. Alors, bénédiction d'abord. Et nous autres, tous à gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour tous les humains, ses bien-aimés. Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année.